ça défigure nos plages, ça tue nos océans, ça tue les animaux, ça finit dans l'estomac des poissons, ça impacte la santé humaine. L'alternative existe, elle n'est pas chère. Et très souvent, en plus, elle est européenne. On a heureusement les citoyens à bord, mais pas tous. Et ceux qui n'y sont pas, ce sont beaucoup de gens, d'internautes, qui nous disent « Ouais, franchement, vous n'avez pas autre chose à faire, vos plastiques, vos pailles, vos machins. » Eh ben non.
Ainsi parlait Frédéric Ries, eurodéputé belge, rapporteur de la loi sur les plastiques à usage unique cette semaine au Parlement de Strasbourg. Fini donc les couverts, les assiettes, les pailles, les touillettes, les cotons-tiges qui devront être produits en matériaux durables. En attendant les paquets de chips, les lingettes, les ballons de baudruche dont les industriels devront débarrasser les plages. Mesures disproportionnées ont aussitôt réagi les lobbies du plastique. Les interdictions ne sont pas la solution, disent-ils, et vont décourager les investissements. C'est vrai, on l'a vu dans un colloque sur l'économie circulaire cette semaine, que de grands groupes français ont parfaitement tenu les engagements qu'ils avaient pris début 2017 devant la ministre de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, et que même pour certains, ils sont allés plus loin que prévu. Le Crédit Agricole, par exemple, qui avait promis de recycler 10 tonnes de cartes bancaires et qui en a recyclé 16,5 tonnes. Ingénico, intégré 37% de matériaux recyclés dans ses nouveaux produits. Hélice, qui a réduit sa consommation d'eau de plus d'un quart. Et puis Eiffage, qui a mis en place une plateforme mutualisée pour le tri de ces déchets de chantier. Voilà, qu'on se le dise, les grandes entreprises peuvent avoir une conscience. C'était d'ailleurs le but de cette opération. Prouver au pouvoir public qu'il n'est nul besoin d'en passer par des législations contraignantes pour avancer. C'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai que les entreprises y trouvent leur compte en termes d'économie ou d'image. Mais qu'en est-il à l'inverse si la mesure ne leur rapporte rien ou leur coûte cher? Dans ce cas, on peut être sûr que rien ne bougera sans l'intervention des pouvoirs publics. Comme l'ont bien compris justement la Commission européenne et le Parlement européen, qui ont laissé ouvert toutefois le problème autrement plus important des bouteilles en plastique, pour lesquelles il n'y a pas d'alternative rentable pour l'instant. Sur ce point, les emballeurs ont obtenu un répit. À charge pour eux maintenant de développer l'économie circulaire qui permettra de recycler leurs produits. Sinon, il faudra légiférer.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp.
Bonjour à tous. Des entreprises qui délocalisent et d'autres qui se restructurent, c'est le terme officiel. La France continue de se vider de ses usines et dans ce contexte, le chômage continue de ne pas baisser. 16 400 demandeurs d'emploi supplémentaires au troisième trimestre. Pourquoi? C'est ce dont vont débattre nos distingués spécialistes Vincent Grimaud d'Alternative Économique et Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour à tous.
Distingués, ça vous va. Hein. C'est dans ce contexte qu'on démarrer les négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement réfléchit notamment à l'introduction d'une forme de dégressivité des allocations chômage pour les cadres, ce que refuse catégoriquement la CGC et son président François Omeril, qui sera notre invité. Ce qui coûte cher à l'assurance chômage pour lui, c'est d'abord la permittance. D'où la nécessité, de son point de vue, d'instituer un bonus-malus sur les contrats courts. C'est une bonne idée ça, Vincent Grimaud?
Oui, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut le faire, il faut y aller maintenant.
Emmanuel Le Chypre?
Oui, c'est vrai que c'est le principal poste de déséquilibre de l'assurance chômage. Oui.
Au moins là-dessus, vous êtes d'accord. Le gouvernement italien, lui, a trouvé autre chose pour abolir la pauvreté en créant un revenu minimum ou de citoyenneté, environ 800 euros par mois pour un coût total de 10 milliards, qui fait monter le déficit à 2,4% du PIB dans un pays déjà ultra endetté. Le budget a été rejeté par Bruxelles. Qu'en pensent les Italiens, notamment les entrepreneurs italiens? Ce sera le sujet du reportage de Mathilde Imberti. Quant à vous, Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour.
Vous reviendrez sur l'une des mesures de la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises en cours d'examen au Parlement.
Exactement, une question de Clotilde sur les conseils d'administration. Il devrait bientôt compter un représentant des salariés en plus. Cela peut-il changer vraiment la gouvernance des entreprises?
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, ce sera à 10h05.
L'usine Fronnery, qui produit des glaces depuis les années 70 à Beauvais, va fermer. 317 salariés vont perdre leur emploi.
L'avenir de l'usine Ford de Blanquefort est toujours en suspens. Ce mardi, la société belge Punch a présenté son projet de reprise. Toute la question maintenant est de savoir si le groupe automobile américain va revenir sur sa décision et l'accepter.
Le blocage de l'acierie Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord se poursuit. Les 281 salariés ont décidé en assemblée générale qu'ils ne reprendraient pas le travail avant qu'une réunion n'ait lieu avec Vallourec, qui détient 40% de l'usine placée en redressement judiciaire et dont l'État est actionnaire.
C'est fini maintenant, on ne joue plus.
Bruno Kopinski.
S'il faut qu'on casse, on va casser.
Porte-parole de l'intersyndicale de l'acierie Ascoval.
Il y a une venue de M. Macron le 7 novembre et je lance aujourd'hui un appel à tous les élus de notre territoire qui ont un peu de dignité et de respect pour les salariés qui vont crever de faim, tourner lui le dos et boycotter sa venue. Je pense que pour les commémorations de l'armistice de la guerre 14-18, on va pouvoir ajouter 280 noms sur les monuments.
C'est pas ma conception d'une économie moderne, digne.
Bruno Le Maire.
D'avoir un employeur qui quelques mois après s'en lave les mains et dit écoutez moi je n'en ai plus rien à faire.
Ministre de l'économie.
Et je suis prêt à ce que l'État mette 1 € d'investissement sur Ascoval dès lors que 1 € d'investissement privé aura été trouvé. Je ne lâche rien.
Alors je vais vous dire une chose.
Xavier Bertrand.
Après ce qu'a dit Bruno Le Maire hier.
Président de la région Hauts-de-France.
D'accord, mais vous jouez votre rôle d'actionnaire et qu'on arrête de raconter n'importe quoi.
Mais...
Qu'est-ce que Vallourec a en tête? Est-ce que la France l'intéresse toujours? Est-ce que le gouvernement croit à l'industrie? À quoi ça sert que l'État soit actionnaire si ça n'est pas pour dire on aide ou pas? Ou alors il n'y a plus de stratégie industrielle.
Les chiffres sont connus depuis quelques minutes et le constat, c'est une nouvelle hausse pour le chômage pour le troisième trimestre.
Plus 0,5% de chômeurs en catégorie A. Toutes catégories confondues, ce chômage augmente aussi de 0,4%.
On est passé de 9,7 à 9,1%.
Muriel Pénicaud.
C'est pas du tout assez, on veut aller plus loin.
Ministre du Travail.
Notre ambition, c'est d'arriver à 7%.
Il y a un vrai sujet de ce côté-là.
Isabelle Maheto-Sillago.
Mais il faut beaucoup de croissance et de la croissance qui dure et qui dure.
Présidente générale de BlackRock Investment Institute.
Est-ce qu'on va réussir à avoir ça en France? On est quand même globalement plus près de la fin du cycle que du milieu. C'est pas inatteignable, 7%, mais c'est clairement très ambitieux et très optimiste.
Voilà, 7%, c'est l'ambition du gouvernement pour la fin du quinquennat, hein, si la tendance globale reste satisfaisante sur une année. Pour le chômage, à moins 1%, la situation reste chaotique. On l'a dit, 16 400 demandeurs d'emploi de plus au troisième trimestre en catégorie A, c'est-à-dire les personnes n'exerçant aucune activité. En tenant compte des personnes ayant une activité réduite, on est à 6 600 000 inscrits à Pôle emploi. Alors, résultat du trou d'air observé ces derniers mois, hein, d'un certain tassement de l'activité économique, probablement, mais pas que, Vincent Grimaud.
Oui, alors avoir une vision d'ensemble du chômage, c'est très compliqué parce que si vous voulez, c'est comme si vous faisiez un bulletin météo dans lequel vous avez 3 thermomètres différents et des thermomètres qui peuvent vous indiquer des choses contradictoires. Donc, vous avez bien sûr les chiffres de Pôle emploi, vous avez les chiffres de l'INSEE et vous avez les déclarations d'embauche que les employeurs transmettent à la Sécurité sociale. Alors, si on mixe un peu tout, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des mauvaises nouvelles. Effectivement, au premier semestre, on a eu un trou d'air dont vous avez parlé et ce trou d'air fait que, eh bien, effectivement, le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse. Le chômage de longue durée continue de progresser. Ça, c'est un autre sujet très inquiétant. Et puis, dernière chose, c'est toujours très compliqué pour les seniors qui sont définitivement les grandes victimes de la crise. Ça fait 10 ans maintenant, on peut le dire. On a un nombre de seniors au chômage qui a été multiplié par 2 en 10 ans selon l'INSEE et par 3 selon Pôle emploi. Donc là, on a un phénomène massif. Malgré tout, il faut essayer de prendre un peu de recul et de regarder un peu sur tendance un poil plus longue. Et si on fait ça, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans la situation 2013-2015 où les chiffres étaient mauvais et j'allais dire tous les thermomètres étaient d'accord sur le fait qu'ils sont mauvais. On a eu récemment donc les chiffres des transmissions de déclarations d'embauche des patrons à la Sécurité sociale et là on a des chiffres records. Alors on n'a jamais eu autant d'embauches qu'au troisième trimestre 2018. C'est des contrats plus longs, plus durables, plus de CDI. Tous les secteurs ont recruté et toutes les régions en ont profité.
Ce qui paraît contradictoire, complètement voilà, contradictoire.
Et notamment la région Grand Est et la région Hauts-de-France qui sont les régions traditionnellement sinistrées. Par ailleurs, on a tout un tas de ce qu'on appelle les indicateurs secondaires qui sont comme le halo du chômage, c'est-à-dire les gens qui veulent travailler, les gens qui ne sont pas considérés comme chômeurs au sens strict du terme, mais qui veulent travailler, ou les gens qui sont en sous-emploi, c'est-à-dire les gens qui aimeraient travailler plus. Tous ces indicateurs-là, en fait, ils stagnent. En tout cas, ils ne se dégradent plus. Donc, on n'a pas un effet d'éviction massif où on aurait des chômeurs découragés qui quittent le marché du travail. Ça existe à la marge, notamment chez les hommes et le cœur, donc les 25-50 ans, ça existe un petit peu. Mais globalement, il n'y a pas d'effet d'éviction massif. Donc, il y a beaucoup plus de gens actifs, donc soit en emploi, soit au chômage. Et surtout, il faut rappeler toujours la même chose quand on parle de chômage. On a une démographie qui reste dynamique. Cette année, on a 175 000 entrants supplémentaires sur le marché du travail. Ça veut dire que si on ne crée pas 175 000 emplois cette année, le chômage, de fait, mécaniquement augmente.
Alors ça, c'est le constat. Mais alors, comment expliquer ce paradoxe, Emmanuel Le Chypre, hein? Les embauches sont bonnes.
Ah bah, dans la même semaine, on a eu des chiffres effectivement totalement contradictoires. On a eu effectivement l'ACOS, l'organisme qui lui recense les contrats de travail, qui nous dit, attendez, au troisième trimestre, ça a augmenté de presque 3%, on n'a jamais signé autant de contrats de travail. Vous avez le même jour l'APEC qui vous dit que jamais les entreprises n'ont embauché autant de cadres. 63% des entreprises ont embauché des cadres. Et le lendemain, on vous dit, bah, attendez, le chômage a augmenté. Et ce qui est intéressant dans cette évolution des chiffres du chômage, c'est que, en fait, la hausse, elle ne s'explique pas par un afflux massif de gens qui viennent sur le marché du travail. Au contraire, le nombre de gens qui s'inscrivent à Pôle emploi, il est en diminution par rapport au trimestre.
Ce sont les départs.
C'est que surtout, on ne part plus de Pôle emploi. On ne quitte plus Pôle emploi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On vous dit, ce qu'on a dit sur les embauches des cadres, jamais autant de pénurie de main-d'œuvre. 83% des entreprises, vous dit la BPI, ont du mal à recruter. On augmente même les salaires. C'est-à-dire que les entreprises augmentent les salaires comme elles ne les ont pas augmentés depuis 2013, y compris pour les gens non qualifiés, parce que d'abord vous avez peur que les gens partent et en plus vous avez surtout envie de d'attirer les talents. Alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que moi je trouve inquiétant. C'est que en fait, on s'aperçoit que les entreprises, quand elles ont besoin de recruter, elles vont chercher d'abord chez les concurrents l'oiseau rare. Après, elles regardent finalement sur les gens qui sont pas trop éloignés de l'emploi, les gens qui sont au chômage depuis peu de temps. Et une statistique intéressante, c'est de voir que les gens qui sont au chômage depuis moins d'un an, leur nombre diminue de 4% à peu près. Alors que ceux qui sont au chômage depuis plus d'un an, leur nombre augmente de 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un nombre très important de chômeurs aujourd'hui dont le profil n'intéresse pas les entreprises. On est sur ce fameux taux de chômage structurel où il y a une inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Et ça, vous pouvez avoir une croissance qui soit beaucoup plus forte. Vous ne changerez pas ça.
D'où l'investissement massif du gouvernement dans la formation.
C'est effectivement la solution. Et puis le deuxième phénomène quand même qui est très intéressant, c'est que les gens restent de plus en plus longtemps inscrits à Pôle emploi, même quand ils ont du travail. Prenez par exemple les chômeurs qui sont, les demandeurs d'emploi. Encore une fois, c'est pas les chômeurs, c'est une autre statistique, le chômage. Les demandeurs d'emploi qui travaillent plus de 150 heures par mois. 150 heures par mois, c'est beaucoup. Eh ben, ils sont inscrits à Pôle emploi, ils travaillent 150 heures par mois, ils sont 600 000 et leur nombre est en hausse de presque 10% depuis un an. Donc vous avez ce phénomène-là qui est aussi un phénomène structurel. Donc moi, il me semble que on est à un niveau de demandeurs d'emploi qui paraît difficilement compressible aujourd'hui.
Non, moi je suis pas du tout d'accord parce que si c'était vrai, on aurait des hausses de salaire beaucoup plus fortes. Certes, il y a des hausses de salaire, mais on n'est pas sur des hausses très fortes. On est sur des, on revient à des étiages de il y a 4-5 ans qui sont pas
2 à 2,5% en moyenne.
Voilà, c'est pas non plus Noël quoi. Et alors, il faut regarder aussi que certes les entreprises déclarent de plus en plus de difficultés de recrutement, c'est vrai. Mais elles déclarent aussi des difficultés de demande. Elles disent mon carnet de commandes n'est pas assez plein et on aura beau former tous les chômeurs du monde, s'il n'y a pas de carnet de commandes, on n'y aura pas d'embauche et ou il n'y aura pas plus d'embauche. Calcul très simple, si on regarde aujourd'hui, il y a 330 000 offres non pourvues en France au maximum. Pôle emploi a fait l'estimation maximale, quelle que soit la nature du contrat, précaire, pas précaire, 330 000. Et il y a 3,5 millions de chômeurs en catégorie A. Donc ça veut dire que si maintenant tous les chômeurs prenaient la première offre d'emploi qui vient, traversaient la rue pour prendre la première, eh bien il resterait 9 chômeurs encore pour chaque poste qui a été occupé. Et donc on peut dire, comme vous le dites Emmanuel, que ces gens-là sont tous hors du marché du travail, mais on peut quand même penser que sur les 9, il y a encore des gens qui sont pas trop mal formés, qui ont eu une activité il n'y a pas très longtemps, et donc on n'est pas du tout encore au chemin structurel. Il y a un gros désaccord entre l'OFCE et
l'OFCE. On va pas s'attendre sur les biais méthodologiques. L'OFCE a une définition par principe, puisque ce sont des Keynésiens, c'est-à-dire que des gens qui considèrent que la dépense publique c'est formidable pour la croissance. Ils considèrent qu'il y a toujours un déficit de production. Et donc, ça joue là-dessus. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, ce piège terrible entre des gens qui ne sont pas qualifiés, et rappelez-vous que 80% des inscrits à Pôle emploi ont au mieux le bac. Quand vous mettez ça en face d'un coût du travail trop élevé, d'un salaire minimum trop élevé au regard de ce qu'apporte.
Le coût du travail est toujours trop élevé.
Oui, le coût du travail est toujours trop élevé. Et en plus, alors, on va pas refaire le débat sur le salaire minimum, mais c'est vrai que pour une entreprise, je veux dire, il faut quand même que vous en ayez pour votre argent. Et ça, les chômeurs sont victimes de ça. Sont victimes de ça. Et moi, je dis que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui, des gens qui sont difficilement employables parce que, au compte tenu de leur qualification trop faible, eh bien, ils sont à un prix trop élevé pour l'entreprise.
Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on a un taux de chômage, le patronat nous dit on est au taux de chômage structurel. Et on entendait ça quand on était à 10%, on entend ça quand on est à 9%. On entend... Donc, en fait, l'histoire donne tort à chaque fois à cette théorie. On arrive à faire baisser le taux de chômage et il va continuer de baisser. Il va baisser lentement, trop lentement, on est bien d'accord. Mais l'OFCE s'attend à une baisse de 8,6% à 2020. Alors, on est loin des 7% voulus par le gouvernement. Mais enfin, ça va encore baisser. Et rappelons-le, la question démographique, on l'oublie tout le temps. C'est très compliqué de faire baisser le chômage avec 175 000 nouveaux arrivés cette année. Donc, il ne faut pas non plus hurler que le coût du travail est trop élevé, d'autant, il faut le redire, qu'il est en train de baisser, puisque le gouvernement transforme, pour le coup, fait une politique de favoriser les bas salaires, puisqu'il va transformer le CICE qui était... qui visait plutôt le haut de gamme, en tout cas les salaires au-dessus de 2,5 SMIC, et maintenant ça se transforme en baisse de charges durable qui vise les bas salaires.
Et il y a donc, une baisse des cotisations.
Sachant que si vous prenez la tendance sur la dernière année, l'écart entre le coût du travail français et le coût du travail étranger augmente. Contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Oui, mais il se réduisait avec l'Allemagne depuis des années.
Il n'y a pas davantage de compétitivité à ce niveau-là.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'investissement J'ai vu que les investissements de nos entreprises sont très importants, supérieurs même aux investissements de nos voisins.
Absolument.
Mais ils se dirigent vers... Enfin, ils vont vers l'immatériel, la recherche, l'innovation et pas dans l'appareil productif. Nos entreprises préfèrent délocaliser vers une main-d'œuvre à bas coût. Ça aussi, c'est un problème.
Oui, c'est un problème. C'est ce qu'on voit notamment avec l'industrie automobile. Il y a... À l'an 2000, l'industrie automobile française dégageait un excédent commercial de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on exportait 10 milliards de plus qu'on importait. 16 ans après, c'était l'inverse, c'est-à-dire que maintenant on a un déficit de 10 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, donc, on investit beaucoup dans les cerveaux et puis on délocalise les bras.
19% de Renault produite en France, je crois. 19%.
Voilà, et donc là on a un choix visiblement stratégique qui est de dire gardons l'ingénierie et la R&D et abandonnons les usines de la part de certains secteurs et notamment le secteur automobile qui pose évidemment un problème pour les basses qualifications et pour tout le monde ouvrier.
Mais c'est vrai que c'est une étude qui vient de sortir là, qui est faite par la Fabrique de l'Industrie et France Stratégie qui montre qu'effectivement en dépenses les entreprises françaises, elles dépensent beaucoup pour investir. Mais au final, quand vous regardez, alors ça c'est beaucoup grâce aux grosses entreprises, parce que quand vous regardez finalement l'état de notre industrie en général, vous voyez quoi? Vous voyez que c'est une industrie qui a des machines qui sont beaucoup plus vieilles qu'en Italie ou qu'en Allemagne. Hein, c'est 17 ans de moyenne d'âge, c'est 12 ans en Italie, c'est 10 ans en Allemagne. Vous voyez qu'on est deux fois moins robotisé, par exemple, qu'un pays comme l'Allemagne. On est aussi nettement moins robotisé que les usines espagnoles et que les usines italiennes, alors pour tout un tas de facteurs qui tiennent au sous-financement des entreprises, à la culture des patrons aussi, hein, qui sont quand même assez conservateurs, les petits patrons français. Et donc ça, bah, effectivement, ça nous fabrique un déficit de compétitivité au niveau industriel. La réalité aujourd'hui, c'est que la France, c'est un pays qui produit de la qualité espagnole, mais 20% plus cher que les Espagnols, et qui vend au prix allemand des produits qui sont d'une qualité 20% inférieure aux produits allemands. Donc il y a un vrai positionnement aujourd'hui de l'industrie française qui est compliqué.
Et du coup, 400 000 emplois perdus en 10 ans dans l'industrie. Donc cette semaine, on l'a vu, hein, à Ascoval, dans le Nord, les compteurs à gaz Itron à Reims. Que peut faire le gouvernement face à cette situation, Vincent Grimaud?
Le problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment quelle est la politique industrielle du gouvernement. On a eu donc le choix du crédit impôt compétitivité emploi par François Hollande, qui était de dire on va essayer de soutenir notamment l'industrie. C'était fléché sur l'industrie. Et puis, on se rend compte qu'on a dépensé 116 milliards d'euros pour des résultats qui sont qui sont mauvais, qui sont clairement mauvais. Les résultats en termes d'emploi, ce serait 100 000 emplois. Alors ça fait un coût par emploi qui est énorme. Et en termes d'innovation, ben, on l'a vu, les entreprises françaises investissent soit dans l'immatériel, soit dans du renouvellement de matériel, mais pas vraiment dans de la robotique, etc. Donc on a une politique qui a échoué. Et d'ailleurs là, elle est transformée en baisse de charges sur bas salaire. Donc on va pas non plus vers l'innovation. Et du coup, on se demande aujourd'hui, mais qu'est-ce que le gouvernement veut faire? On avait les pôles de compétitivité, on sait que certains ont bien marché, d'autres pas du tout, mais on n'a pas de stratégie visiblement d'ensemble. Les filières stratégiques dont parlait Arnaud Montebourg, on voit pas trop où elles en sont aujourd'hui, donc c'est ça l'inquiétude. Et la question, c'est est-ce que le gouvernement veut garder de l'industrie
nationaliser provisoirement l'acierie d'Ascoval?
On peut. Alors, juste, pareil, prendre un petit peu de recul, pour la première fois, ça fait un an qu'on ne détruit plus d'emplois dans l'industrie, ou... Alors, ici et là, on en a détruit, ici et là, on en crée, mais au global, ça y est, on a arrêté l'hémorragie. Ça fait 18 ans qu'on perdait. Je remontais le tableau de l'INSEE, on perdait depuis les années 2000, depuis l'année 2000. Et là, pour la première fois depuis un an, on ne perd plus. Alors, il faut regarder les ouvertures, les fermetures. Il y a des endroits, il y a des segments d'industrie qui repartent. Il y a des secteurs, il y a des endroits en France qui ont 40% d'industrie, hein, comme les herbiers en Vendée, où ils innovent, etc. Donc, tout n'est pas perdu. Mais ce qui est inquiétant plutôt, c'est la stratégie du gouvernement et de la stratégie de l'État pour dire qu'est-ce qu'on fait pour l'industrie.
Alors qu'est-ce qu'on fait, Emmanuel de Chypre?
Bah, on voit bien que c'est d'ailleurs le sujet est le même que pour l'emploi finalement, parce qu'on se dit en matière d'emploi, en matière de désindustrialisation, finalement Emmanuel Macron il a pas de résultats, etc. Mais le problème c'est qu'on est sur des sujets sur lesquels l'inflexion de trajectoire elle est quand même très longue, elle prend du temps. Quand on dit effectivement que le problème principal sur le marché du travail c'est la formation de la main d'œuvre, bah oui, on a fait des choses pour la formation, mais ça produira pas des effets avant 3, 4, 5 ans. Et l'industrie, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, le CICE, tout ça, c'est bien. Mais si vous regardez les vrais désavantages compétitifs de l'industrie française qui tiennent au financement des entreprises, qui tiennent à par exemple, un sujet que le gouvernement a totalement occulté, qui sont ce qu'on appelle les impôts de production. C'est-à-dire que ces impôts que les entreprises payent avant d'avoir produit le moindre boulon ou la moindre machine. C'est 70 milliards par an. Donc, on a des vraies difficultés qui font que c'est pas à l'État de définir la stratégie dans une période d'invention comme celle-là. Je veux dire, c'est pas l'État américain, même si initialement Internet tout ça c'est l'État américain, mais c'est pas l'État américain qui a inventé Amazon, Facebook, Google. Et donc il faut laisser s'exprimer finalement la créativité des entrepreneurs, sachant que le problème c'est même pas un problème industriel qu'on a. Le sujet majeur c'est toujours le même, c'est comment on fait pour faire grandir des petites entreprises et les transformer en entreprises de taille intermédiaire. Si vous résolvez ça, vous résolvez tous les problèmes. Parce que si vous prenez une entreprise de taille intermédiaire française, par rapport à sa concurrente allemande ou italienne, elle est au niveau. Le problème, c'est qu'on a deux fois moins de ces entreprises intermédiaires que l'Italie, 5 000 à peu près, et trois fois moins que les Allemands. Si vous aviez autant d'entreprises de taille intermédiaire, vous auriez 1 million d'emplois en plus, vous auriez plusieurs milliards d'exportations en plus, vous auriez moins de déficit public, plus de cotisations sociales. Vous résolvez tous les problèmes de l'économie française.
Un dernier mot, Vincent
Grimaud. Oui, on a un vrai risque. On est quand même très dépendant de quelques secteurs. Là, je suis complètement d'accord avec Emmanuel. On a des grands groupes aéronautiques, luxe, parfums, cosmétiques qui fonctionnent très bien, qui sont excédentaires. Mais il va falloir se poser la question de faire grossir les petites entreprises dans les autres secteurs mécaniques, etc., où on a beaucoup, beaucoup perdu.
Et sachant que les grands groupes ne les aident pas toujours à grandir, d'ailleurs.
Contre le chômage et la précarité, il y a aussi peut-être une autre façon de procéder, à l'italienne.
L'assistentialisme serve quoi.
Il nous faut de l'assistanat. On accumule les jobs précaires. Il n'y a pas moyen de cotiser pour la retraite. C'est vraiment pas du luxe. On n'est pas en France ici. On n'a pas le chômage. Les jeunes comme moi, on est une génération perdue.
Je suis persa quasi 10 anni di lavoro. Perché tra una cosa e l'altra, tra lavoretti, no, da 3 mesi, 2 mesi.
Ça fait 10 ans qu'on galère avec des petits boulots.
Un curriculum idoneo. Non, così,
on attend ce fameux revenu minimum. Il faut voir comment ils le mettent en œuvre maintenant.
Eh oui, le gouvernement du changement en Italie, tel qu'il s'est lui-même baptisé, a promis d'abolir la pauvreté et de relancer l'économie. Comment ? En instaurant un revenu minimum, en revenant sur la réforme des retraites et en baissant les impôts. Problème, dans un pays ultra endetté, ce budget est totalement hors des clous européens. Le déficit annoncé de 2,4% est trois fois supérieur aux promesses de l'ex-gouvernement de centre-gauche, alors même que l'Italie affiche aujourd'hui la plus faible croissance de la zone euro, inadmissible évidemment pour la Commission, qui a donc rejeté le projet de budget du gouvernement Conte. Le bras de fer entre Bruxelles et Rome ne fait que commencer. C'est le reportage de notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti.
L'Italia, così come l'Europa, cresce se tutti fanno bene la propria parte, uniti.
En cet automne 2018, les patrons italiens se retrouvent pour leur traditionnelle assemblée de rentrée. Les jeunes entrepreneurs de la Confindustria, le MEDEF italien, invitent comme tous les ans sur l'île de Capri. Vue dégagée sur le golfe de Naples, invités de marque et au loin, Rome et ses décideurs politiques qui alimentent la colère. 80% du budget qu'ils ont conçu est fait de mesures redistributives, dénonce Avessio Rossi, 38 ans, une PME dans le secteur de la construction. Il préside l'organisation des jeunes entrepreneurs.
Una valutazione che vede una manovra di bilancio fatta a debito.
C'est d'abord un budget déficitaire. Mais si seulement c'était le seul souci. Mais on dépense de l'argent pour assister les gens, alors qu'avec ces mêmes sommes, on pourrait aider ceux qui veulent créer des entreprises, qui veulent se lancer. L'État se transformerait en incubateur d'emploi, pas le contraire. On attendait des dépenses pour l'investissement. En fait, elles représentent 4 milliards sur les 37 du budget. C'est un budget contre la jeunesse.
On endette les
générations futures pour payer les retraites d'aujourd'hui. On ne peut pas se le permettre. Le pays vieillit. On ne fait plus d'enfants et le nombre d'emplois baisse.
Ci sarà un incontro, un confronto tra il governo italiano e l'Unione Europea. Speriamo che questo confronto sia.
Il nous reste à espérer que la confrontation entre l'Italie et l'Europe les fasse changer de direction. Mais il faudrait revoir entièrement ce budget parce qu'on tentait de petites modifications.
Des entreprises italiennes qui réclament un coup de pouce de l'État. Elles souffrent, c'est le mal endémique du pays, d'un sous-investissement qui entraîne avec lui une perte de productivité de l'Italie. Dans l'arène compétitive mondiale, le pays se met à douter d'elle-même, avec la crainte que les choix budgétaires de la coalition au pouvoir ne fassent qu'empirer la situation.
Je suis Pietro Salini, je suis le CEO d'une société de construction qui s'occupe des génies civils partout dans le monde. On travaille dans 56 pays. Les entreprises italiennes, ils essayent de travailler à l'étranger plus qu'à l'intérieur, parce qu'il y a un manque de travail à l'Italie, en Italie, sur les investissements d'infrastructures. Pour nous, nous faisons les 93% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, et seulement les 7% à l'Italie. Comme entrepreneurs, nous attendions des mesures d'investissement qui puissent favoriser l'investissement des étrangers et de nous-mêmes dans notre pays. On a des demandes à se poser, des questions à se poser, des réponses qui n'arrivent pas. C'est pas simple. On a des changements importants dans le gouvernement et dans la politique. Et je crois que tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, avec un peu d'inquiétude.
Les premiers effets des annonces gouvernementales se font sentir. L'agence de notation Moody's a rétrogradé d'un échelon l'Italie. Peu importe aux yeux du gouvernement, nous ne modifierons pas une ligne de notre budget, assure Matteo Salvini de la Ligue, quand les 5 étoiles se disent convaincus d'abolir la pauvreté et de faire repartir la croissance avec un budget qu'ils qualifient du peuple. Outre la baisse de l'âge de la retraite et des allègements de taxes, la mesure phare de ce budget est un revenu minimum à 800 euros par mois, versé aux personnes sans ressources. Les agences pour l'emploi obtiendraient également des fonds pour se moderniser. La marge de progression est énorme, commentent les chômeurs rencontrés dans la plus grande agence pour l'emploi de Rome, un immeuble dégradé en périphérie de la ville. Tatiana, 39 ans, Cristina, 48.
Oui, j'en sors parce que je dois renouveler mon statut de chômeur. Mais je n'ai pas vu une seule annonce pour moi. J'ai perdu l'espoir dans ces structures pour l'emploi. Je ne touche rien de l'État, mon dernier travail était un contrat précaire. Pour les femmes, c'est encore plus difficile.
Adesso un bambino e da quando ho avuto bambino non ho lavorato perché far coincidere tutte due cose.
J'ai eu un enfant et je n'arrive pas à concilier le travail et la garde.
molto difficile.
C'est la galère.
Che perché vabbè, io ormai non sono neanche
più. E puis moi je ne suis plus très jeune.
Quanti anni ha?
48, quindi difficile.
J'ai 48 ans.
Ci sono delle bacheche con degli annunci.
E il y a quelques annonces, però, mais bon.
Però adesso ecco, io non ho la laurea, quindi magari viene preferita anche
pour moi,
la laurea.
Pour moi qui n'ai pas de diplôme, ça ne marche pas.
Se riescono a farlo, io sono
favorevole. E donc oui, je suis favorable à ce revenu minimum.
Ovviamente i controlli adeguati, senza che nessuno
en mettant en place des contrôles, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas d'abus.
L'Italie n'est jamais vraiment sortie de la crise. La pauvreté est à son plus haut niveau depuis 12 ans. Le taux de chômage à 11% sur la population générale, 30% chez les jeunes. Les prévisions de croissance 2019, un petit pourcent selon le FMI, légèrement plus selon les calculs du gouvernement. Le respect des règles européennes ne nous a rien apporté, entend-on fréquemment. D'où le scepticisme avec lequel les rappels à l'ordre de la Commission européenne sont accueillis. Pierre Moscovici pour On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Vous êtes commissaire aux affaires économiques. Est-ce qu'on peut raisonnablement interdire à ce pays d'adopter un budget expansionniste déficitaire censé aider les Italiens à relever la tête ?
La Commission européenne n'est absolument pas dans l'idée, en particulier moi, d'interdire à un gouvernement d'investir davantage, d'avoir des programmes d'inclusion, de lutter contre la pauvreté, de créer un revenu universel. Je suis plutôt de culture keynésienne, mais je sais que ce type de stimulus peut marcher à très court terme, et encore de façon hypothétique, mais que très vite, ça ne fait que se transformer en une dette qui est de plus en plus chère, parce qu'elle est surveillée par les marchés. Il y a 130% de dette en Italie, et qu'au final, l'effet sur la croissance finit par être négatif. Il est normal que la Commission européenne défende l'intérêt général. Il faut que les Italiens soient conscients du regard que leurs partenaires jettent sur eux, conscient que, au fond, la zone euro, c'est un peu comme une copropriété, et qu'il y a un règlement de copropriété qui s'appelle le pacte de stabilité et de croissance, et que quand on appartient à une copropriété, qu'on s'assied sur le règlement de copropriété, on finit par avoir quelques difficultés. C'est la raison pour laquelle il faut rester, même quand on est en désaccord, et nous sommes en désaccord, dans le dialogue, et essayons de trouver des solutions communes dans la durée, parce que, in fine, c'est quand même l'économie qui va trancher. Et de ce point de vue-là, honnêtement, j'ai beaucoup de sympathie pour les thèses keynésiennes à l'ancienne. Je suis obligé de constater que l'histoire économique a montré qu'elles ne fonctionnaient pas.
Est-ce que vous sentez les dirigeants italiens obstinés ?
Oui, je les sens obstinés, croyant à leur martingale et aussi parfois agressifs. C'est la raison pour laquelle je veux, moi, avoir du sang-froid pour deux.
Verdetto annunciato, attesa la bocciatura di Bruxelles.
Pas un rendez-vous d'information ces jours-ci qui ne réserve une place centrale au cours de la bourse ou encore au fameux spread, surveillé comme du lait sur le feu en Italie. Le pays joue gros, analyse Carlo Cottarelli, directeur de l'Observatoire des comptes publics italiens.
Le spread, la différence entre le tasso d'intérêt.
Le spread, c'est la différence entre les taux d'intérêt payés par l'État italien quand il emprunte sur les marchés et les taux d'intérêt payés par l'Allemagne, qui est considéré comme un pays sûr. Cette différence nous donne une idée de la perception du risque d'investissement dans les titres d'État. Avec un spread élevé, on peut craindre que l'État ne parvienne plus à se financer et cela freinerait tout le pays. Les banques seraient affaiblies parce qu'elles ont investi beaucoup dans les titres d'État. Le risque, c'est que l'économie parte en récession. Néanmoins, je pense que la situation peut se stabiliser. Encore faudrait-il utiliser des tons plus modérés avec l'Europe. Ce budget est présenté comme un budget pour stimuler la croissance. L'autre interprétation est que les élections européennes approchent et qu'il s'agit plutôt d'une manœuvre électorale.
L'Italie, le nouvel élève rebelle de l'Europe, c'était un reportage de Mathilde Imbert.
Tous les samedis à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Yves Decamp.
Alors ce choix radical de l'Italie qui s'assoit donc sur l'orthodoxie budgétaire européenne, qu'est-ce que vous en dites, Vincent Grimaud ?
C'est un bras de fer qui, à mon avis, surtout politique. Alors oui, le stock de la dette, il est élevé en Italie, mais le déficit, qui est le flux, la dynamique récente, il est plus sain. Donc la question qui se pose, elle est surtout politique, c'est de dire, c'est quoi le projet européen ? Est-ce que c'est de faire de nouveau de l'austérité sur de l'austérité sur de l'austérité qui amène, on l'a vu, à des populistes au pouvoir ? Ou est-ce qu'on dit, comme on l'a entendu dans le reportage, vous avez besoin d'investir investissements, il faut augmenter la productivité du pays, les entreprises ne sont pas assez productives, et donc on va investir. Et donc c'est un choix plus politique qu'économique, parce que l'Europe a les reins financiers pour soutenir l'Italie et pour la soutenir face au marché financier. Donc c'est un choix. Est-ce que l'Europe s'engage financièrement pour aider un pays à monter en compétitivité et offrir des perspectives, ou alors est-ce que c'est juste un règlement de copropriété, comme l'a dit Pierre Moscovici, où on respecte des règles très strictes et où il n'y a pas de projet, et où et bah, au final on voit la traduction politique.
L'Italie ne va pas dans le mur, Emmanuel Le Chypre ?
Bah, l'Italie, non. Elle a, par exemple, l'Italie, effectivement, si vous sortez la charge de la dette, elle n'a pas de déficit excessif. Si vous regardez la trajectoire de la dette italienne, elle est moins inquiétante que celle de la France. Hein. Je vous rappelle que depuis 20 ans, elle a très peu augmenté. La dette italienne, c'est un pays qui n'a pas de déficit extérieur, à la différence de la France, ce qui veut dire qu'elle n'a pas besoin d'attirer les capitaux du monde entier. Ce qui est dommage, c'est le dogmatisme de tout le monde dans cette affaire. Le dogmatisme de la Commission, qui, quelle que soit la situation, dit qu'il faut faire plus d'austérité. Or, le cas du Portugal nous a montré qu'une fois que vous aviez fait de l'austérité et que vous aviez retrouvé de la compétitivité, c'était bien aussi après de relancer la demande. Donc, vous voyez, c'est une question de moment. Là, le problème avec la proposition du gouvernement italien, c'est qu'on a une politique qui est plutôt centrée sur une relance de la demande et un soutien de la consommation, alors que une grosse partie du problème italien, ce serait de relancer, effectivement, comme l'a dit Vincent, l'investissement, la compétitivité. Et là, le compte n'y est pas, mais on se croirait vraiment on est encore une fois dans la cour de récréation européenne, et au moment où les États-Unis et les Chinois sont en train de s'installer au poste de pilotage du monde du 21e siècle, ça fait vraiment querelle dépassée, quoi.
Emmanuel Le Chypre de BFM Business, Vincent Grimaud d'Alternative Économique, merci à vous, messieurs, et bon week-end. J'accueille François Omeril, président de la CGC. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bah, même question. Est-ce qu'on peut s'extraire des règles européennes comme le fait l'Italie ?
Bah, écoutez, j'ai pas la qualité de vos experts qui viennent de s'exprimer sur le sujet. Moi, je retiens deux choses. C'est que l'Italie, qui a connu une vague de dérégulation de son code du travail, d'inspiration très libérale ces dernières années, bah, j'observe que ça n'a pas débouché sur l'embellie économique attendue, et j'envoie ce message à notre gouvernement qui en a fait sa première priorité après l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis je note aussi que Pierre Moscovici, qui est commissaire européen, est devenu aussi professeur d'histoire économique, donc je veux le féliciter pour cette nomination.
Voilà, un petit peu d'ironie au passage. Revenons à la situation française. Le chômage dont on parlait tout à l'heure avec nos débatteurs, les mauvais chiffres du chômage depuis le début de l'année, quelle interprétation vous en avez ? C'est un simple effet de la conjoncture, un simple trou d'air, ou il y a autre chose ?
Il y a probablement plusieurs raisons. Dans notre analyse, nous, à la CFE-CGC, hein, je précise le nom complet de l'organisation, c'est CFE-CGC, ça décrit l'ensemble des catégories de l'encadrement. C'est vrai qu'on va peut-être beaucoup parler des cadres, puisque c'est un peu le sujet.
Évidemment.
Mais la CFE-CGC, c'est toutes les catégories de l'encadrement. Eh bien, dans notre analyse, il nous semble que la problématique, elle est dans la capacité qu'a aujourd'hui Pôle emploi et les différents organismes qui travaillent sur la requalification, de faire se superposer un besoin du marché du travail, parce qu'il existe un besoin, une vraie demande économique, avec le désir de chacun de travailler. Le vrai problème, d'ailleurs le gouvernement lui-même l'avait évoqué, le problème c'est la requalification, c'est le travail qui doit être fait vis-à-vis des demandeurs d'emploi pour les remettre en situation de réintégrer le marché du travail de façon efficace.
Alors on va en parler, ça, à propos de la réforme de l'assurance chômage qui est en négociation, mais d'abord, pourquoi la croissance en France est-elle pauvre en emploi ? Quelle est votre analyse de cette situation ?
Il y a plusieurs raisons, et je pense pour le coup que les experts peuvent être divisés. La productivité en France est très forte. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, malgré effectivement un taux d'automatisation qui est relativement différent d'autres compétiteurs en Europe, la productivité du travail en France est très très forte, notamment sur le lieu du travail, mais aussi pour les professions intellectuelles à l'extérieur du travail. Ça peut être une des raisons. Une des raisons aussi, c'est que en France, on a beaucoup désindustrialisé ces 20 dernières années, et nous pensons, nous, à la CFE-CGC, que l'industrie est quand même un des éléments clés de la croissance économique, et qu'il faut surinvestir dans le secteur industriel, où il y a eu beaucoup de dossiers dans vos journaux ce matin, il y en aura d'autres dans les semaines qui viennent, sur des industries qui sont en difficulté, non pas par rapport à leurs procédés et à la compétitivité de leurs procédés, ni aux compétences des gens qui travaillent dans leurs usines, mais simplement ils sont en difficulté parce que les priorités des investisseurs financiers ne sont plus dans le développement de cette industrie-là. Voilà un sujet qui nous semble être le sujet probablement le plus porteur.
Et il n'y a pas de problème de compétitivité dans les entreprises françaises, de votre point de vue ?
Si, bien sûr, il y en a toujours des problèmes de compétitivité. possibilités, mais il y a, de notre point de vue, des problèmes de gouvernance, c'est-à-dire d'allocation des priorités pour le développement de l'entreprise et d'allocation des moyens financiers pour le développement de ces entreprises-là. Ça nous semble être aujourd'hui un des problèmes numéro un.
Alors, les ordonnances Macron, les différents chantiers ouverts par le gouvernement, de votre point de vue, ne changeront rien ? On n'est pas parti dans la bonne direction ?
Bah, elles ne changeront absolument rien. J'ai pas changé d'avis depuis septembre de l'année dernière, où je crois la CFE-CGC s'est largement exprimée sur le sujet. J'observe que vous-même, vous en avez fait un des thèmes majeurs de votre débat. Aujourd'hui, le problème des entreprises n'est pas de licencier de manière plus facile, mais de recruter. Donc, on voit très bien que le gouvernement s'est totalement trompé de cible à travers les ordonnances. Il a tout simplement répondu à un désir totalement dogmatique d'une certaine frange d'influence qui il y a aujourd'hui autour du gouvernement, et il n'a absolument pas répondu à la bonne question, qui est justement d'attirer les compétences, de les former, de les stabiliser et de les valoriser dans l'entreprise.
Alors justement, ce sont d'autres chantiers qui ont été ouverts, la formation professionnelle et la réforme de l'assurance chômage. Là, ce sont deux chantiers importants.
Sur la réforme de la formation professionnelle, moi je suis très en colère contre le gouvernement, qui a, je vais prendre ce seul exemple, parce que c'est vrai que c'est un dossier très complexe dans lequel il est difficile de s'exprimer clairement, et il est encore parfois plus difficile de comprendre. Mais pour prendre l'exemple, dans la formation professionnelle, il y avait deux dispositifs existants très particuliers. Le congé individuel de formation, qui était adressé aux personnes qui veulent travailler sur leur reconversion individuelle, et le CPF, le congé personnel de formation. Ces deux dispositifs étaient caractérisés par deux différences fondamentales. C'est que le congé individuel de formation est un dispositif de formation très requalifiant. Ceux qui l'utilisent retournent vers un emploi requalifié, mais qu'il était sous-financé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas suffisamment de financement pour pouvoir fonctionner à l'ensemble des populations qui voulaient le saisir. Alors que le CPF, lui, est assez inefficace en termes de requalification, tout le monde le sait, et surtout, il ne fonctionne pas parce qu'il est surfinancé. Eh bien, le gouvernement a décidé par dogmatisme uniquement de supprimer le CIF et de faire une espèce de gloubi-boulga de tous les dispositifs totalement illisible et totalement inefficace, alors qu'il avait un discours plutôt de volontarisme vis-à-vis des dispositifs de formation. Il n'a pas écouté les partenaires sociaux, il n'a pas respecté l'accord qui avait été signé. C'est une très mauvaise attitude sur ce sujet-là.
Enfin, tout le monde sait, François Aubryl, que ce ne sont pas ceux qui en avaient le plus besoin qui profitaient de la formation professionnelle et de leur CPF.
Et du CPF, eh bien, vous savez, sur la question de la formation, il y a aujourd'hui tout un tas de dispositifs qui permettent de réallouer les sommes qui sont collectées pour pouvoir faire de la formation. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette idée qu'il y en aurait qui auraient plus ou moins besoin. Peu importe, parce que la formation professionnelle, c'est une question d'initiative personnelle, mais c'est aussi une question de plan stratégique dans les entreprises. Nous, on pense à la CFE-CGC que c'est dans les entreprises, principalement, que les efforts de formation doivent être tendus, parce que justement, ils permettent d'augmenter la compétitivité de l'entreprise à partir du progrès et de la montée en compétences des salariés. On est aujourd'hui dans un système qui finalement s'est un peu asséché dans sa vision, où vous l'aviez là encore évoqué tout à l'heure, les entreprises recherchent toujours le mouton à cinq pattes. Quand elles cherchent à recruter quelqu'un, il s'agit de trouver sur le marché du travail la personne idéale qui, dès le lendemain de son embauche, va occuper à 100%, voire à 120% le périmètre du poste qui lui est proposé. Mais ça n'existe pas, c'est un pur fantasme. Les gens se forment en permanence dans l'entreprise, ils évoluent, ils montent en compétences, ils épousent les objectifs de l'entreprise. Il faut avoir une vision dynamique des choses. Et aujourd'hui, ce qui est proposé en termes de réallocation des moyens de la formation ne va pas du tout dans ce sens.
Alors sur la réforme de l'assurance chômage qui est en cours de négociation, il y a pour vous une ligne rouge, c'est la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Là, vous allez loin, vous parlez carrément de populisme.
Oui, j'emploie des images parfois un peu colorées. Moi, je dis qu'on ne peut pas diriger la France du coin du bar. Sur ce sujet-là, moi, j'ai des arguments scientifiques. Le gouvernement, lui, il a des propos de comptoir. Voilà la différence. J'aimerais qu'on ait sur ce sujet une vision objective. Or, la vision objective, qui nous l'apporte ? Ce sont les chercheurs qui travaillent sur les régimes d'assurance chômage en Europe. Il n'y a pas tant que ça. Il existe une publication. Moi, personnellement, j'en ai donné la référence dans tous les médias et les médias sociaux notamment. J'espère que chacun a pu la consulter. Une publication de revue de janvier 2017 de Bruno Coquet, qui fait justement une comparaison de l'ensemble des dispositifs européens d'allocation chômage et qui fait une comparaison dans le temps des systèmes français qui ont changé 7 fois, je crois, depuis 20 ans. La dégressivité, elle a existé en France. Et on l'a supprimée. On l'a supprimée parce qu'il a été jugé qu'elle était inefficace.
Ça n'incite pas les cadres à retourner au travail.
Alors, j'y reviens maintenant. D'une manière fondamentale, scientifique, la dégressivité ne fonctionne pas. Après, prétendre qu'il serait juste de l'imposer au seul cadre, c'est effectivement une mesure populiste. C'est désigner une catégorie aux yeux des autres, en disant, voilà des gens qui se dorent la pilule au chômage, sans préciser qui, comment, quoi, combien.
Mais les capacités à retrouver un emploi ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Les capacités à retrouver un emploi ne sont pas les mêmes. Ceci dit, quand vous avez 50 ans et que vous êtes victime d'un plan social, que vous êtes chef de fabrication dans une usine, directeur commercial dans une activité de service, et que vous vous retrouvez au chômage, ce n'est pas si facile que ça.
Bien sûr.
De retrouver un emploi, il faut se requalifier, il faut parfois se requalifier dans une autre filière. Je vous fais observer que les 150 premiers jours de chômage, les cadres, ils ne sont pas indemnisés, justement. Et quand ils sont indemnisés, ils font un long moment pour pouvoir travailler sur sa requalification. Et au niveau de la prise en charge vis-à-vis de conseillers à Pôle emploi ou à l'APEC, le temps est très très long. Un cadre, quand il sollicite une formation, dans les différents dispositifs qui sont disponibles à Pôle emploi, il doit attendre entre 6 mois et 1 an pour pouvoir justement accéder à cette formation.
Mais leur indemnisation est élevée. Autour de 6 000 euros, c'est le plafond, hein, c'est le plafond mensuel en France, bien au-dessus du plafond mensuel chez nos voisins.
L'indemnisation moyenne des cadres qui sont privés d'emploi, elle est de 2 200 euros.
En moyenne.
Elle est de 2 200 euros en moyenne. 50%, 52% exactement des cadres qui sont au chômage touchent 2 150 euros, je crois. Donc, désigner, c'est ça que j'appelle le populisme, désigner les 900 personnes, il n'y en a pas une de plus, qui aujourd'hui sont au chômage et qui touchent 6 545 euros, hein, qui est le plafond, puisque la cotisation est plafonnée à quatre plafonds. C'est très malhonnête, et je veux préciser qu'aujourd'hui, justement, les cotisations des cadres sur 2015, c'est 42% des ressources du régime et 15% des dépenses. 10 milliards à la solidarité intercatégorielle.
On a compris le message. François Omri, le président de la CFE-CGC, contre la dégressivité des allocations chômage. La réforme de l'assurance chômage, précisons-le, est en cours de négociation. Merci beaucoup, François Omri.
Merci à vous.
Et rebonjour, Sandrine Foulon.
Bonjour.
Ma vie au boulot. Bientôt, les conseils d'administration devraient compter plus de représentants des salariés. Clotilde est une ancienne déléguée du personnel. Elle vous demande si cela va vraiment changer la gouvernance dans les entreprises.
Oui, Clotilde, lorsque la loi Pacte sur la transformation des entreprises sera définitivement votée, il devrait y avoir 2 administrateurs salariés au lieu d'1 aujourd'hui. La mesure concerne les entreprises qui emploient plus de 1000 salariés en France, 5000 dans le monde, et qui comptent un conseil d'administration de plus de 8 membres. Le rapport Nota Sénart qui a inspiré la loi Pacte recommandait plutôt 3 représentants de salariés, mais le gouvernement a préféré descendre à 2, ce qui satisfait les organisations patronales. Alors oui, Clotilde, ce n'est pas beaucoup. En Allemagne, qu'on cite toujours pour sa légendaire cogestion, les conseils de surveillance sont composés pour moitié de salariés. Les 110 plus grandes entreprises cotées outre-Rhin comptent 38% de représentants de salariés. En France, nous sommes à un peu plus de 7% selon les derniers chiffres de l'Institut français des administrateurs. Il est toujours possible de se consoler, les choses progressent pas à pas. En 5 ans, avec les lois Sapin et Rebsamen, le nombre d'administrateurs salariés a triplé. Bien sûr, on les trouve chez EDF, Renault, Thales ou Total, mais il n'y en a toujours pas chez LVMH ni chez Airbus, qui fait jouer des dérogations.
Alors, quelles peuvent être les marges de manœuvre d'1 ou de 2 représentants des salariés isolés dans un conseil d'administration ?
Eh bien, ils ont beau être isolés, ils peuvent donner leur avis sur une délocalisation, sur le niveau de salaire des dirigeants. Encore faut-il qu'ils aient accès à toutes les commissions spécialisées. Les administrateurs salariés ne sont que 40% à participer au comité de rémunération et 20% au comité de stratégie. Demain, la loi Pacte pourrait leur garantir un accès à tous ces comités. Autre changement, ils devraient bénéficier d'une formation de 40 heures. C'est un bon début vu la complexité des données financières et l'ampleur des enjeux sur l'emploi. Mais c'est loin d'être suffisant. Au-delà du nombre, il leur faut aussi gagner en légitimité, même s'ils doivent abandonner leur mandat de représentant du personnel, même s'ils sont tenus à une obligation de confidentialité. Les administrateurs salariés sont souvent scrutés par les autres membres qui redoutent des fuites. La confiance, Clotilde, n'est pas encore au rendez-vous.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, merci et à samedi prochain.
On n'arrête pas l'écho avec la Banque Tarnot. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Tarnot, une banque du groupe Crédit du Nord.